Cube Radio. Vous l'avez vu? Vous l'avez lu? Maintenant, entendez-le. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer. Le guide de l'auto. Cube Radio.
Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'auto, édition du 9 janvier 2021, 101e émission du Guide de l'auto et première de l'année 2021. Germain, bonjour.
Bonjour Antoine, bonne année.
J'ai vu que tu revêtais aujourd'hui un beau chandail de la Dodge Charger, histoire de nous amener dans une époque ou dans une décennie où les moteurs V8 sont toujours très, très, très populaires du côté de chez FCA.
Oui, mais qui vont probablement tendre à être de moins en moins présents. Alors, on profite de cet élan de nostalgie.
Bon, on va commencer par quelques actualités. Et là, on a vu quelques chiffres de vente des constructeurs automobiles être dévoilés, les chiffres de vente pour 2020. Il y a des constructeurs qui s'en sont quand même assez bien sortis malgré la pandémie. Il y en a d'autres, ça a été catastrophique.
Oui, effectivement, mais de manière générale, là, au Canada, on note une baisse de 20% de vente de véhicules neufs. Donc,
c'est gigantesque.
C'est énorme parce que d'année en année, c'est toujours stable, même que jusqu'à il y a un an ou deux, on remarquait une croissance à chaque année. Mais
Je pense qu'il y a deux ans, on avait vu une baisse de 2,2% et c'était une baisse considérée comme majeure.
Oui, et peut-être pour donner un ordre d'idée, là, on était à 1,5 million cette année comparativement à 1,9 million pour l'année passée. Donc, ça fait une bonne différence. Il y a plusieurs facteurs, hein, évidemment, qui expliquent ça. Bon, le fait que les concessionnaires aient été fermés pendant de longues semaines, c'en est un. Le fait que...
les usines aient stoppé la production pendant deux mois.
Exactement. Donc, l'approvisionnement était compliqué. Donc, il y a des modèles dont on a manqué. Il y a des modèles dont on ne savait plus quoi faire. Donc, il y a des clients qui ont perdu leur emploi, d'autres clients qui savaient plus quoi faire de leur argent. C'était une année un peu mouvementée. Il y a des manufacturiers aussi qui ont pris des initiatives intéressantes, justement pour garder un rythme de vente intéressant. Il y en a d'autres qui étaient assis sur leurs mains, donc on remarque des baisses de ce côté-là.
Je pense que Kia est un des constructeurs, qui s'est démarqué. Ouais. Qui s'est démarqué, puis je parle évidemment des constructeurs de masse, là, qui s'est démarqué avec des stratégies qui ont porté fruit parce que la baisse de vente est presque nulle.
Et de 5,5%.
Donc c'est vraiment pas beaucoup. Là.
Et je le répète, c'est 20% pour la moyenne canadienne. Donc Kia à 5,5%, on est très bon. La grande surprise pour moi, c'est Cadillac qui a vu une augmentation de ses ventes de 4%.
Ça, on parle au Canada. Là.
Au Canada, une augmentation des ventes de 4%. Bon, il y a l'escalade qui est arrivée, mais il est arrivé tard en fin d'année. Sinon, la gamme de Cadillac...
Il y a quelques acheteurs de CT5 qui se sont pointés.
Oui, des gens qui attendaient leur commande,
On a fait des bondés aussi sur des XT4.
Oui, mais donc, de là avoir une augmentation de 4%, je me l'explique.
Peut-être qu'on n'en avait vraiment pas vendu beaucoup l'année passée non plus.
Peut-être aussi.
C'est une marque, on peut considérer Cadillac comme une marque de niche aujourd'hui qui ne vend pas beaucoup de véhicules. Là,
pour le Canada, là.
Non, c'est ça.
Et dans les pires, on pense à Infiniti. Qui est à moins 47%.
C'était déjà catastrophique.
Et là, on rajoute à ça tous les enjeux liés à la pandémie. Et Chrysler, on est à moins 43%. Jaguar, moins 41%. Mitsubishi, moins 37%.
Ça fait mal.
Nissan aussi, ça fait très mal, moins 33%.
Nissan, c'est le constructeur le plus perdant, je pense, parce que Jaguar perde 50% des ventes, c'est un très, très petit joueur. Mais, et Chrysler, la marque ne tient qu'à un modèle et c'est la Pacifica. Ouais. Donc, c'est une marque qui vit sur du temps emprunté. On y reviendra un peu plus tard d'ailleurs. Mais chez Nissan, la baisse.
C'est des gros
volumes,
là. Voilà.
C'est du gros volume. C'est des véhicules d'importance. On a une gamme vieillissante. Là, on sait que le Rogue est arrivé tardivement. Ouais. La Sentra, ça ne s'est pas vendu comme on voulait. Ouais. Et pourtant, c'est une voiture de grand talent dans ce segment-là. Mais le lancement s'est fait en pleine pandémie. Ça a été une voiture oubliée. Le lancement a été raté. C'est une des victimes, je pense, en automobile. Ça, puis l'Acura TLX.
Des bons produits qui sont arrivés
au bien mauvais moment.
Ouais. Et Et ben on peut pas non plus blâmer les manufacturiers qui étaient en train d'improviser là.
Absolument.
Donc c'est pas de leur faute. Et ben en terminant BMW moins 30%, hein, même si on
ça,
a
ça fait mal.
Même si on a l'impression qu'il y en a à tous les coins de rue aujourd'hui des BMW, cette année n'a pas été une année très très fructueuse. Donc voilà,
chez les constructeurs allemands, c'est BMW qui s'en sort le moins bien, ça c'est clair. Et c'est vrai à l'échelle mondiale, hein. On le sait que BMW...
Il y a une restructuration, là.
Mot à la mode.
Oui, effectivement. Ça et se réinventer.
Oui, exactement. Mais je trouve ça intéressant de constater qu'il y a des constructeurs qui s'en sont bien sortis. Nissan, c'est le grand perdant. Et j'ose croire que 2021, ça sera un nouvel essor pour Nissan parce que là, on arrive avec plusieurs nouveaux modèles. Le Frontier de nouvelle génération sera dévoilé cette année. On s'attend à ce que le Pathfinder soit renouvelé cette année aussi. Et là, ben, il y a le nouveau Rogue qui arrive sur le marché. On est arrivé avec la Versa, qui ne sera pas une voiture à très, très, très grand volume, mais qui va quand même contribuer peut-être à la relance de la marque. On ne peut pas se permettre de rester là ou d'augmenter, ne serait-ce que légèrement. Il faut qu'on ait un gros, gros boom en 2021. C'est vital. Ouais. Et Infiniti, on va voir, parce qu'avec 5700 ventes au Canada cette année, c'est deux fois moins de véhicules que Volvo. Donc, c'est quand même pas rien. Et là, ça prend un coup de massue. Et on va arriver avec le QX60 de nouvelle génération cette année.
Ouais, qui est un véhicule à volume, là.
Avec le QX55, mais qui, je peux te le dire d'avance, ne se vendra vraiment pas beaucoup parce que c'est un QX50 avec
l'arrière rayon tronqué,
élancé, là. Donc, j'ai l'avenir pour Infiniti est très inquiétant. Mais pour Nissan, si on joue nos cartes de la bonne façon, je pense qu'on va être capable de se relancer.
Bon, autre nouvelle qui est sortie tout juste avant l'enregistrement, c'est on a appris que le Tesla allait offrir une version plus bas de gamme de la Model Y, on ne sait plus. Donc, une version à un seul moteur électrique, donc deux roues motrices.
Pour une raison bien précise.
Une autonomie de 393 km.
Ouais.
Et ben, ça permet au véhicule d'être éligible, finalement. En fait, ça permet à Tesla de l'offrir moins cher et ainsi de profiter du rabais, du rabais gouvernemental.
Donc, quel est le prix de ce véhicule-là?
De 8 000 $, ce qui le rend encore un peu plus intéressant. On est à 54 900 $, plus les frais de transport et préparation. Bref, de 1 280 $.
Tu réalises que ce véhicule-là coûte le même prix à l'achat qu'une Kia Niro tout équipée, 100% électrique. Sauf qu'elle est éligible à 8 000 $ de crédit,
ouais.
Non pas 13 000.
Oui, exactement. Et il n'est pas non plus éligible à la clause Pacifica parce que la version de base n'est pas en dessous de 45 000 $. Donc, il y a plein de technicalités qui faisaient que
C'est pas un 7 passagers non plus dans ce cas-là.
Non, c'est ça, exactement. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle pour le modèle Y. Mais voilà.
On en avait parlé un peu avant les fêtes. J'avais flagué la nouvelle peut-être un mois d'avance, mais là, c'est pratiquement officiel. Fiat, c'est terminé. On a officialisé l'abandon de deux modèles sur trois qui demeuraient. Et le troisième, le seul survivant, c'est le 500X qui s'est vendu à moins de 100 unités en 2020 au Canada.
Donc, une Fiat qui avait déjà pas... Une marque qui avait déjà pas le vent dans les voiles, on en retire deux modèles sur trois. Donc, on enlève la 124 Spider, on enlève la 500L... Et on garde un seul modèle.
Je vous le dis, là, si vous croisez une 500X 2021 cette année, quelque part, même chez un concessionnaire, achetez-vous un 649.
Ouais.
Ça va être un véhicule
mais
hyper
pourquoi
rare.
Mais pourquoi garder ça, là?
Ben, parce que sur papier, on le conserve le temps que la transition se fasse. Mais comprenez quelque chose, il n'y aura pas de Fiat en 2022, c'est garanti.
Et le pire, c'est que le véhicule existe ailleurs au sein du même groupe, là.
Oui, oui.
Absolument. Donc, on gagne absolument rien.
Ben, en fait, on avait déjà planifié que ce véhicule-là revienne. On a décidé de le conserver pour 2021. Donc, un concessionnaire qui voudrait en commander pourra le faire. Mais qui va vouloir acheter une Fiat 500X en 2021?
Personne.
Bonne question.
Encore moins
de vouloir se différencier.
Oui, mais moi, je me mets à la place là, des hauts gestionnaires de FCA. Je me dis, on a le Jeep Renegade qui est différent dans son approche. Mais
qui se vend de toute façon même pas. Là. Il n'y a pas Non, il n'y a aucune énergie qui est mise sur ces véhicules-là. Chez Jeep, ça commence avec le Cherokee. Après ça, le Wrangler, le Grand Cherokee. Ouais. Là, il y a évidemment le Wagoneer.
Oui, parce que le Compass, on n'en voit pas, on n'en voit pas des tonnes.
Non, 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 c'est ça. Et de toute façon, notre prochaine nouvelle, moi qui est roi de la transition, c'est le dévoilement qui a eu lieu il y a quelques jours du Grand Cherokee L de nouvelle génération. Oui. Alors, c'est drôle parce que le Grand Cherokee L, c'est un Grand Cherokee 7 passagers de nouvelle génération, entièrement nouveau. C'est franchement un beau véhicule, mais on l'a uniquement dévoilé en version allongée. Oui. La version là, régulière, on ne le sait pas.
Toi et moi, on a eu un paquet de questions de gens qui nous ont interrogés à propos de ce véhicule-là. On ne sait pas encore tout, mais toujours est-il que ce n'est pas une version plus petite du futur Grand Wagoneer, parce qu'il ne partage pas du tout les mêmes composantes. Donc, c'est très différent à cet effet-là. Et c'est pas non plus le Grand Cherokee actuel qui a été tiré, parce que c'est un véhicule qui est plus moderne et ça se voit en regardant les photos. L'intérieur n'a rien à voir avec un Grand Cherokee d'aujourd'hui. Il arbore la calandre là, de nouvelle génération, là, si on veut. Donc,
non, le design est entièrement nouveau. Ouais, l'habitacle est nouveau. C'est un nouveau châssis monocoque qu'on utilise là-dessus.
Alors que le Grand Wagoneer, ben, lui, ça va être
le châssis
en échelle, exactement. Ouais. Donc, c'est très différent. Et là, ben, la question principale, c'était est-ce qu'on va garder un Grand Cherokee à cinq passagers? Parce que ben, c'était un rare véhicule de ce format-là qui n'était pas justement un autobus, là, quasiment. Est-ce que la réponse logique, c'est que là, si on a ajouté le suffixe L, donc il y a un Grand Cherokee L, ben, si on prend la peine de le distinguer, c'est qu'il va y avoir un Grand Cherokee régulier qui va demeurer.
Qui va ressembler à celui-là, mais avec un empattement plus court et qui va être encore plus beau.
Et là, ben, je veux pas dévoiler de punch, mais le Durango de prochaine génération risque de ressembler à ça.
Oui, c'est ça, exactement.
Parce que, voilà.
Hein, déjà, on va assurément utiliser le même châssis, ça c'est certain. Et d'ailleurs, il faudra poser des questions quant à cette plateforme-là, quant à la provenance de cette nouvelle plateforme-là, parce que est-ce que c'est un châssis modifié de ce qui existe actuellement ou est-ce que c'est une toute nouvelle structure? On n'a pas eu la réponse à ça encore, mais chose est certaine, le véhicule est entièrement nouveau. Ouais. Peut-être un peu déçu du fait qu'on garde 100% les mêmes mécaniques.
Ouais, on n'innove pas beaucoup, mais franchement, il ne fallait pas s'attendre à mieux là, en étant réaliste.
Le V6 c'est Pentastar.
C'est ça, le moteur de base V6 Pentastar. On a droit au EMI 5.7 litres.
Mais on aurait pu, je ne sais pas, optimiser le Pentastar en lui greffant une technologie d'injection directe, par exemple, en le bonifiant de quelques chevaux, c'est pas arrivé.
C'est trop de modernisme, Antoine.
Oui, c'est ça.
Mais évidemment, là, on nous a promis une version hybride, mais vous avez le temps d'acheter quelques calendriers d'ici là.
Parlant de version hybride, moi qui est maître de la transition, on va parler du véhicule que j'ai conduit dans le temps des fêtes et que je continue de conduire. Parce que
surnom du roi de la transition te colle de mieux en mieux à la peau.
C'est extraordinaire. Alors, je suis au volant depuis 3 semaines d'un Ford Explorer hybride qui est un véhicule que j'apprécie particulièrement.
Découvre, hein, parce que c'est un véhicule dont on a très, très peu parlé, autant dans les médias que du côté de Ford, dans la publicité. Ouais. On a mis toute l'enfance sur la version ST qui était plus flamboyante, mais la version hybride n'est pas moins intéressante.
Ben moi, je trouve ça intéressant parce que il y a quelques jours, j'ai reçu... d'abord, vous expliquer que la gamme Ford Explorer propose 4 versions et 4 choix de motorisation. La version XLT donc est équipée d'un 2.3 litres 4 cylindres turbo de 300 chevaux. Ensuite, vient la version Limited qui reçoit ce même moteur-là et en option pour 3 000 $, vous avez la version hybride. Et la version hybride va proposer un V6 3,3 litres, c'est le moteur de base du F-150, jumelé à une technologie hybride, ce qui, en puissance maximale combinée, donne 318 chevaux et 5 000 livres de capacité de remorquage. Donc, c'est un véhicule, faut pas le considérer comme un hybride qui a la même vocation que le Toyota Highlander hybride avec un 4 cylindres.
Qui, lui, mise exclusivement sur l'économie de carburant. Ouais, son seul but, c'est de consommer le moins possible.
Mais au détriment d'une capacité de remorquage et d'une puissance intéressante.
C'est ça.
Donc, puis après ça, ben vient la version ST haute performance à 400 chevaux et la version Platinum avec le même moteur 3 litres turbo qui fait 365 chevaux. ce que j'ai trouvé, donc vous aurez compris que la version hybride, ce n'est que dans le modèle Limited,
ce qui est
en
dommage.
Option. Et c'est dommage parce qu'on aimerait aussi l'avoir dans la version XLT, mais ce qui n'est pas le cas. Et Ford ne donne pas l'impression de vouloir en vendre tant que ça parce que, disons que la disponibilité est relativement limitée. Et moi, j'ai fait une moyenne. La moyenne de consommation combinée annoncée par Ford, c'est 9,6 litres au 100, ce qui n'est pas super impressionnant, ce qui est un peu en deçà de ce qu'un Honda Pilot ou de ce qu'un Kia Telluride à moteur V6 régulier va faire, avec une puissance un peu moindre que celle du Ford. Donc, il y a une consommation légèrement moindre pour une puissance légèrement supérieure et des capacités de remorquage comparables. Voyez-le comme ça. Et ça en fait un véhicule très intéressant à conduire, mais la consommation d'essence, c'est pas exceptionnel. Donc, vous voyez, cet hiver, en conduisant le véhicule mi-ville, mi-route, dans des conditions à moins 5, moins 10 degrés, des fois autour du point de congélation, j'étais à 11 litres au 100. Et sur 500 km de parcouru, il y en a 100 km qui ont été faits dans un contexte de mode électrique. Alors, c'est quand même pas méchant, mais j'ai trouvé intéressant le commentaire d'un policier qui m'a envoyé un long message suite au fait qu'il savait que je conduisais ce véhicule-là. Les corps de police ont des versions Police Pack avec motorisation hybride. Et il y a peu de corps de police qui vont opter pour la motorisation hybride parce qu'il existe aussi un Explorer Police Pack avec V6 3,3 litres atmosphérique, point final.
OK.
Et la version hybride,
moins cher,
et la version hybride, c'est une option. Mm-hmm. Mais évidemment, un policier avec une version hybride, ils aiment pas nécessairement ça. Ils trouvent que c'est une gestion inutile. Ils sont toujours au fond, donc le moteur à essence marche tout le temps. Ils voient pas de bénéfice à la consommation. C'est un peu particulier. Et moi, j'ai parlé à une policière qui, ironiquement, était présente chez un de mes amis il y a quelques semaines à peine, alors qu'il y avait eu du vandalisme chez un de ses voisins, enfin bref, et elle conduisait le nouvel Explorer avec motorisation hybride et s'en plaignait ardemment, s'ennuyait de son ancienne Dodge Charger. J'ai trouvé ça intéressant. Mais,
et on se rappelle que quand les Dodge Chargers sont arrivés, les policiers s'ennuyaient des Crown Victoria.
Oui, ouais, c'est ça.
D'éternels nostalgiques, ces policiers.
C'est ça. Mais se plaindre quand t'es assis au volant d'un Explorer à journée longue, j'ai déjà vu pire. Là.
Oui.
Pensez aux policiers français qui roulent dans des Peugeot 308. C'est quand même moins pire, là. Je ne sais pas.
Mais
cela étant dit, l'Explorer, c'est un véhicule solide. Les performances sont intéressantes. Je trouve que l'aménagement intérieur, c'est fantastique. À la troisième rangée, j'aime pas le fait que l'occupant, quoique l'accessibilité est assez facile, l'occupant n'y voit rien parce que les piliers sont tellement épais que tu deviens claustrophobe assis à l'arrière. Mais au niveau de la polyvalence de l'habitacle, du comportement, de la solidité de la conduite, c'est franchement un véhicule qui m'a impressionné. Et c'est dommage que la version hybride ne soit pas plus popularisée parce que même si on pourrait ne pas écrire hybride dessus et on la vend pas tant que ça non plus en ce sens-là.
Non, parce qu'on associe souvent le terme hybride à économie de carburant et là, ben c'est
plus ou moins ça, ouais. Mais en contrepartie, les performances sont franchement intéressantes et je pense que c'est ça qu'il faut mettre de l'avant. Ça consomme un peu moins qu'un V6 traditionnel chez l'ensemble des concurrents. Vous allez consommer la même chose qu'avec un Mazda CX-9 par exemple, mm-hmm. avec un 4 cylindres turbo.
Vous allez avoir un peu plus de punch.
Mais vous allez avoir plus de puissance et plus de capacité aussi,
ouais.
Parce que ça remorque quand même 5000 livres et c'est certainement capable de le faire. Là. Le véhicule ouais. est assez solide pour ça. Il y a aussi des freins de plus grosse dimension là-dessus, des freins haute performance.
Pour la régénération, je peux dire.
Pour la régénération, mais c'est un système de freins qui fait en sorte que le véhicule est dynamiquement très intéressant à conduire. Okay. Enfin bref, moi j'ai bien aimé ça, mais à 55 000, c'est pas donné et c'est dommage qu'on puisse pas avoir accès à cette mécanique-là sur une version XLT.
De mon côté, rapidement, j'ai conduit le Subaru Ascent,
ouais.
C'est un bon moment de l'année, là, l'hiver, pour conduire un véhicule de la marque Subaru. Et j'ai l'impression que ce véhicule-là a vieilli rapidement dans son approche, dans sa présentation. C'était bien quand il est arrivé, mais j'ai l'impression qu'il a pris un coup de vieux. Soit ça, ou c'est le marché qui évolue très rapidement, ce qui est le cas aussi un peu, je pense. Mais mon constat est le même à chaque fois que je conduis ce véhicule-là. Un moteur à 4 cylindres, turbo compressé, avec une boîte CVT, donc à variation continue, dans un véhicule de ce format-là, ça ne propose pas un rendement intéressant. Je trouve que c'est inapproprié comme groupe motopropulseur pour un véhicule de cette taille-là. J'ai peut-être l'air d'un dinosaure, là, mais dans un véhicule à 7 passagers, d'avoir juste un V6 traditionnel à essence, pour moi, c'est la base.
Et ça consomme pas moins.
Non, c'est ça.
C'est ça l'affaire. On s'en rend compte avec plusieurs véhicules de ce segment-là qui veulent jouer la carte du 4 cylindres.
Ouais.
Je parlais du CX-9 tantôt. Le CX-9, avec un moteur turbo, on roule ça préférablement au super avoir accès aux 250 chevaux qu'on annonce.
Et là, le 2.4 Subaru, il est turbo-compressé. On nous dit pas de le remplir au super, mais... Idéalement, ça devrait être ça.
Puis je trouve ça intéressant parce que Subaru, on se souvient quand on a lancé le Tribeca, le B9 Tribeca et ensuite le Tribeca, on n'a jamais réussi à percer avec ce véhicule-là. Non. Quand la Ascent est arrivée, on a fait « bon, enfin, on a quelque chose de plus sérieux ». Mais on dirait que ça a été un feu de paille. L'Outback, c'est ancré. Le Forester, c'est ancré. La Crosstrek, pas de problème, ça se vend. Mais on dirait que l'Ascent...
C'est plus dur de percer.
C'est plus dur de percer dans ce marché-là. Les Américains, les Japonais sont bien implantés là-dedans. Volkswagen fait des affaires d'or avec l'Atlas.
Tout à fait.
Là, on est arrivé avec un véhicule qui joue pas les imposteurs. C'est un gros camion avec un V6. Il y a de la place en masse.
Ouais.
C'est typiquement américain et ça se vend. L'Ascent, tout à fait ça.
La stratégie, c'est ça, de motorisation est vraiment, vraiment pas optimale. Puis tu disais, de prendre un 4 cylindres turbo ou un V6, il n'y a pas grand économie à faire. Moi, j'étais presque à 11 litres au 100 là, sur les 600 km que j'ai fait avec ce véhicule-là. Donc, il n'y a pas de 11 litres. Là.
On parlait de l'Explorer il y a 2 secondes. Alors, c'est ce que je faisais avec l'Explorer hybride avec 318 chevaux, avec un V6.
Et là, l'Ascent est à 260 de mémoire. Là, donc
au niveau de la puissance, il y a quand même 60 chevaux d'écart.
Ben oui. Et ça se ressent. Et c'est la maudite CVT qui nuit à tout. Heureusement...
Puis tu remorques pas autant non plus.
Non. Il n'y a rien à faire.
Puis ça n'a pas de frein, en passant.
Non.
Et c'est un des problèmes sur l'Ascent. La durabilité des freins, c'est un problème connu. Les gens qui ont des Ascent le savent. Alors, c'est un point faible. Ça prouve juste une chose. On a décidé de faire un VUS basé sur une Outback plus gros en ne prenant pas en considération ce qu'il fallait faire comme modification pour composer avec le poids supplémentaire. Et malheureusement, le véhicule en a des faiblesses.
Et quand tu parles de l'Outback, ça paraît un peu quand tu embarques dans le véhicule parce que sa garde au sol est relativement faible. Donc, tu as vraiment l'impression d'embarquer dans une voiture, ce qui peut être intéressant parce que tu grimpes même pas dans un camion. L'accès à la deuxième rangée est facile. Avec les sièges capitaine, on est bien assis. Mais ça se résume à ça pour ses qualités, si tu veux mon avis.
Le guide de l'auto. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer.
Germain, ces temps-ci, on parle beaucoup de voitures électriques, évidemment, mais il n'y a pas que les voitures qui sont électriques. De plus en plus, on commence à voir des autobus scolaires avec des pare-chocs de couleur. Bien, ceux-ci sont aussi électriques. Et est-ce que tu savais qu'ils sont fabriqués et ont été développés chez nous au Québec?
Et je pense que c'est leur plus grande caractéristique et on n'en parle pas assez. C'est quand même une fierté québécoise.
Bien, on va changer ça parce que là, on va parler avec le président fondateur de Lion Électrique, M. Marc Bédard. Bonjour Marc.
Oui, bonjour Germain, bonjour Antoine.
Bienvenue parmi nous.
Merci.
On est d'abord curieux de savoir l'entreprise Lion Électrique, ça a commencé comment, ça part de où? Parce qu'aujourd'hui, c'est une entreprise qui roule, qui est réputée dans le domaine et il y a peu de gens, ironiquement, qui connaissent son existence, du moins dans le monde de l'automobile.
Oui. Bon, on est de plus en plus connus dans le monde de l'autobus scolaire, puis là maintenant dans le monde du camion. Mais vous savez, ça fait 12 ans qu'on existe. Et il y en a des fois qui nous disent là que c'est comme un genre de succès qui s'est passé en une nuit là tout récemment, mais puis qui se préparait depuis 12 ans. Mais c'est ça, moi j'ai fondé la compagnie avec Camille Chartrand en 2008. Et on a commencé à vendre nos premiers autobus électriques en 2016. Et dès 2010, on a pris la décision que le futur de Lyon allait être électrique. C'était quand même audacieux à cette époque-là, parce qu'en 2010, je sais pas si vous vous rappelez, mais il n'y a pas grand monde qui savait même comment épeler le mot Tesla. Mais
non. Nous autres, en 2010... On n'avait même pas de Nissan Leaf, là, en 2010. Là. On n'avait rien, là.
Ben non, c'est ça. Puis nous autres, on s'est dit, regarde, c'est ça que ça nous prend pour le futur, pour les poids lourds.
Donc, il y a eu un Lyon pré-électrique, c'est ce que j'entends?
Il y a eu un Lyon pré-électrique. Il y a plusieurs centaines d'autobus Lyon au diesel qui sont sur la route. Fait que dans le fond, ça a été un petit peu comme... ça s'est fait en deux étapes. La première étape, c'est qu'il y a eu beaucoup d'innovations qui ont été faites sur un véhicule un peu plus traditionnel, donc avec une motorisation traditionnelle. Puis notre deuxième étape après ça, c'est qu'on est retourné à notre planche à dessin dès 2010. Et à ce moment-là, on a complètement fait un véhicule là, qui est né pour être électrique, qui est devenu le Lyon C, complètement électrique, là, qu'on a commencé à vendre là, environ 5 ans plus tard.
Qu'est-ce que les premiers autobus à motorisation diesel avaient d'innovateur que les véhicules comme les Thomas, les Bluebird qu'on connaît, n'avaient pas?
En fait, il y avait beaucoup de choses parce que j'ai fait un genre de due diligence là, du marché pendant environ 6 à 7 mois avant de décider de partir Lyon. Et ça, c'était au début de 2008. Là. Et j'ai rencontré au-dessus de 500 opérateurs partout en Amérique du Nord. Puis, ce qu'ils me disaient, eux autres, en fait, c'est qu'ils avaient besoin d'être écoutés. Puis, ils avaient besoin d'avoir une nouvelle motorisation avec le temps parce que le diesel, il va falloir renouveler ça avant longtemps. Ils ne savaient pas exactement c'était quoi la motorisation. Mais ils parlaient aussi de diminuer les coûts d'opération. Et nous, c'est là-dessus qu'on s'est attardé au départ. Donc, un véhicule beaucoup plus léger. On a amené le véhicule un petit peu plus large également, 6 pouces plus large que les autres véhicules.
Ah,
ça permet de mettre des ceintures de sécurité 3 points pour la sécurité de nos enfants, là, sans perte de capacité. Puis ça, c'est important parce que les 500 opérateurs m'ont dit que ce qui était réveillé la nuit, eux autres, c'était vraiment le fait que les ceintures de sécurité allaient arriver. Puis là, plutôt qu'être capable de mettre 70 enfants dans un autobus, ils vont être capables seulement d'en mettre environ 45. Et là, nous autres, on s'est dit non, on va trouver la manière de ne pas perdre de capacité, mais en maintenant le plus haut niveau de sécurité, donc pour être capable de mettre des ceintures. Donc, il y a eu ça, des matériaux qui rouillent pas, donc il y a beaucoup de composites de fibres de verre, il y a du plastique, etc. Donc, beaucoup d'avantages pour les opérateurs, là, ce qui fait qu'au fil des années, ils ont beaucoup moins de rouille sur leur véhicule, fait qu'ils gagnent au niveau des coûts d'opération.
Et j'imagine que les véhicules sont moins énergivores aussi parce qu'ils sont plus légers, là.
C'est ça. Ils sont un peu moins énergivores à cause de ça. D'un autre côté, vu qu'on le met un peu plus large, le gain de poids est un petit peu moins grand. Fait qu'avec le temps, on s'est mis à faire des véhicules. Les gens ont le choix entre le véhicule plus large ou moins large. Fait que quand ils prennent le véhicule qui est un peu moins large, ils ont un gain de poids supérieur, donc moins énergivore, effectivement.
En termes d'autonomie pour un autobus Lyon électrique, ça ressemble à quoi? Parce que, bon, on sait, un autobus scolaire, son trajet quotidien est particulier, ressemble à celui d'aucun autre véhicule sur la route, parce que il y a un blitz le matin, une grande pause au milieu de la journée et un autre blitz en fin de journée. Comment on arrive à négocier avec tout ça?
En fait, nous autres, l'approche qu'on prend, c'est, on appelle ça de l'énergie modulaire. Et donc, on vend en module. Donc, ça veut dire qu'un opérateur qui a besoin d'uniquement 150 km dans une journée ou sur une course, là, disons le matin, peut prendre 150 km. Donc, le moins d'autonomie maintenant qu'il peut avoir, c'est 150. Et le plus d'autonomie aujourd'hui, c'est un autobus scolaire, c'est 250. Ça fait qu'il peut prendre 150 km, 200 km ou 250 km. Donc, pourquoi payer pour de l'énergie embarquée dont il n'a pas besoin? Nous autres, on se dit, tu payes uniquement pour quelque chose que tu as besoin. Hein? On donne souvent l'exemple, si tu as besoin d'un 4,5, ben tu loues pas un 8,5. C'est la même affaire. C'est de l'énergie perdue, c'est de l'argent perdu. Donc, c'est la bonne façon. Et à 150 km au minimum, là, ça, c'est notre gros vendeur. La majorité des opérateurs achètent du 150. Des fois, ils ont besoin de recharger dans la journée. Des fois, ils n'ont pas besoin.
Ben justement, ils ont cette opportunité-là parce qu'ils ont plusieurs heures entre la course du matin et celle de l'après-midi. Donc, c'est une belle opportunité pour se recharger, là.
Ben tout à fait. Mais en même temps, nous autres, on veut leur donner la flexibilité. Fait que c'est eux autres qui choisissent. Il y en a que les opérateurs, des fois, le conducteur est à la maison. il y a moins des installations et tout ça. Donc, on regarde tout ça avec l'opérateur quand il prend la décision d'acheter son véhicule. Puis à ce moment-là, il peut choisir l'énergie embarquée qui lui convient.
Et le coût à l'achat d'un autobus électrique, comparativement à celui plus conventionnel, donc un moteur diesel, ça ressemble à quoi?
C'est sûr que c'est plus élevé, hein? Puis ça, c'est la réalité de l'électrique. Donc, le coût initial est plus élevé. Puis après ça, tu regagnes les économies au fil du temps. Donc, au niveau d'un autobus scolaire, c'est un peu plus de deux fois le coût initial d'un autobus au diesel. Donc, si on regarde le programme qu'il y a au Québec aujourd'hui, là, quand on applique la subvention du Québec qui est donnée, le véhicule, il est environ 30 à 40 000 $ plus élevé. Donc, ce 30 à 40 000 $ là plus élevé, là, au net, se recoupe à l'intérieur de 3, 4, 5 ans selon l'opérateur. Fait que ça va quand même assez vite.
Donc, il est rentabilisé au bout de 3, 4, 5 ans et après ça, ben, c'est du gain pur dans le fond, là. Parce que la durée de vie d'un autobus scolaire, ça peut ressembler à quoi en moyenne au Québec?
Ben, au Québec, c'est 12 ans. Il y a une règle du 12 ans. Après 12 ans, les véhicules doivent être...
Doivent être mis au rencard.
Et okay. Après ça, ça devient un entrepôt à cap de roue dans une cour à scrap.
Oui, ou un campeur, quelqu'un qui veut faire le tour de l'Amérique. C'est ça.
C'est ça.
Bon, évidemment, moi, la question qui me tétille, c'est la même qu'on se pose aussi pour l'industrie automobile. L'approvisionnement des batteries est un problème pour l'ensemble des constructeurs automobiles. C'est la raison pour laquelle les RAV4 Prime, ça rentre au compte-gouttes, pour laquelle on a de la misère à fournir chez Hyundai, chez Kia avec des véhicules électriques. Y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes, mais les batteries se font rares. Alors, comment est-ce que vous composez avec cette réalité-là et est-ce que vous êtes capable de fournir à la demande que vous avez actuellement?
Oui, absolument. Ben, c'est une excellente question. Nous autres, l'approche qu'on a pris pour les batteries, en fait, dès le début, c'est qu'on a décidé de faire nos packs batteries nous-mêmes. Et plusieurs raisons pour ça.
À l'image de Tesla, finalement, là.
Ben, Tesla vont une étape plus loin, eux autres, parce qu'ils font même leurs cellules batteries. Fait que nous, on fait pas les cellules, puis aujourd'hui, on fait pas nos modules batteries. Mais on fait le reste du pack. Ça veut dire qu'on a un système de gestion de la batterie, là, qu'on appelle communément le BMS. Et le BTMS également, et tout ça. Donc, nous, on fait tout ça. BMS, BTMS à l'interne. Donc, système de climatisation, système de chauffage. Et on fait le pack batterie. Ça, c'est une chose. On achète également de BMW. Donc, vous connaissez les packs sur la BMW i3.
Ouais.
Qui sont des packs là en 400 volts. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on les couple pour amener ça en 800 volts. Et on a une entente sur plusieurs années avec BMW. Ça, c'est la deuxième chose qu'on fait. La troisième chose qu'on fait, c'est qu'on a une entente avec une compagnie qui s'appelle Romeo Power. Et c'est une entente sur plusieurs années également. Et eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils partent d'une cellule cylindrique 21-700. Et ils vont nous vendre, dès 2021, ils vont nous vendre des packs batteries complets. Ça, c'est notre approche. Puis également, ce qu'on annonce, là, ce qu'on a annoncé dans les dernières semaines, c'est qu'on va construire une usine de batteries. De 5 gigawatts, quand même une usine assez importante. Oh, oui. Et on veut la faire au Québec. Et cette usine-là, en fait, on va continuer de produire nos packs batteries, mais là, on va une étape plus loin où on va construire également nos modules batteries. Donc, on va partir des cellules cylindriques 21-700 et on va construire des modules Lyon avec tout le reste de la technologie qu'on a déjà. Et là, on devient vraiment presque à l'abri des problèmes d'approvisionnement dans le futur.
Et à ce moment-là, pourriez-vous même approvisionner d'autres types de véhicules, d'autres types de fabricants de véhicules?
Oui, on pourrait. C'est pas dans notre plan d'affaires aujourd'hui, mais on n'est pas contre regarder ça au fil des années, mais dans un premier temps, nous autres, on va se servir comme il faut.
Vous voulez commencer par vous suffire, là,
ouais,
c'est ça?
Oui, c'est sûr, mais si on voit qu'il y a de la place pour les autres, puis tout ça, nous autres, il n'y a rien de mieux que d'aider les autres compagnies. Tous les manufacturiers de véhicules électriques, c'est un danger qui les guette. Fait que si on peut aider quelqu'un d'autre, on va être content.
Puis en même temps, si une entreprise comme BMW ou Romeo Power décide de vous couper les vives pour X ou Y raison, ben vous avez des alternatives parce que vous avez plusieurs voies d'entrée, là.
Bien, tout à fait. Puis c'est pour ça, en fait, qu'on décide d'y aller avec plusieurs façons de s'approvisionner. Nous autres, on pense que d'y aller juste avec une façon, même si c'est notre propre usine de batterie, il y a toujours un risque. Fait que là, en prenant les trois approches qu'on prend aujourd'hui, là, on dérisque vraiment le potentiel de problème là, dans le futur.
Avant de parler de la raison pour laquelle on se parle cette semaine, parce qu'il y a eu une grande annonce vous concernant, je veux juste revenir sur l'autonomie des autobus, parce que vous parliez tantôt entre 150 et 250 250 km. Mais ça, évidemment, j'imagine que ce sont dans des conditions estivales idéales. Qu'est-ce qui arrive l'hiver? Est-ce que l'autonomie du véhicule baisse pratiquement de moitié comme pour une voiture?
Non, parce qu'en fait, le chauffage n'est pas un chauffage électrique. Et, et quand je dis ça, là, c'est qu'on a plusieurs alternatives qu'on donne à nos clients. Fait que nos clients peuvent avoir le chauffage électrique, puis d'ailleurs, en Californie, c'est ça qu'ils prennent. Mais étant donné que la température en Californie n'est pas du tout la même, là.
Non, je vous le confirme.
Oui, bien c'est ça. Fait que dans le nord de la Californie, je vous dirais, ils perdent à peu près un 10 à 15 en utilisant le chauffage électrique parce que la température n'est quand même pas si froide que ça.
Ouais.
Par contre, au Québec, il fallait chauffer tout... Écoute, le fourgon, là, c'est un fourgon de 35 pieds à l'intérieur. Donc, c'est long. S'il fallait chauffer électrique, on perdrait à peu près, comme vous dites, environ la moitié de l'autonomie. Ce qui fait pas vraiment de sens pour les opérateurs. Donc, presque tous les opérateurs du Québec, jusqu'à la date, ont pris la décision d'y aller avec un chauffage alternatif, là. Donc, c'est un chauffage au diesel pour la période de l'hiver.
Okay.
Donc, ben c'est ça. Fait que là, ça fait que le véhicule devient électrique à 99% plutôt que 100% dans ces périodes-là, mais au moins ils perdent à peu près, je vous dirais à cause de l'hiver, la neige, la traction sur la route, en moyenne, on calcule à peu près un 10% de perte d'autonomie.
Ce qui est quand même pas grand-chose, là. Mm-hmm. Considérant la masse à déplacer, là.
C'est ça.
Bon, parfait. Maintenant, évidemment, l'annonce de cette semaine, ça a été ce contrat que vous êtes en voie de signer avec Amazon, qui a commandé, si je ne m'abuse, 2500 véhicules électriques, 2500 camions de livraison pour une période de 5 ans.
Oui, en fait, c'est un contrat d'approvisionnement jusqu'à 2500 véhicules au fil des 5 prochaines années. Donc, Amazon a l'option de les acheter en vertu de ce contrat-là,
okay,
jusqu'à une capacité de 500 par année, parce que nous autres, on voulait également se garder de la place pour tous les autres clients. Et ces camions-là, là, c'est une combinaison de Lion 6, donc des camions de classe 6, et des camions de classe 8, là, 100% électriques.
Et là, j'imagine que ça élargit votre champ de commercialisation, parce qu'actuellement, vous êtes principalement dédié à l'autobus scolaire. Et là, vous allez dans le camion de livraison. Premièrement, est-ce que faut retourner aux planches à dessin et travailler très rapidement pour répondre à la demande d'Amazon? Et deuxièmement, est-ce que vous allez être capable de suffire à la demande? Est-ce que vous avez les effectifs actuels pour être capable de les fabriquer, ces 500 camions-là?
Ben absolument. Donc, si je commence par la capacité de production, à l'usine de Saint-Jérôme, là, qu'on a aujourd'hui, on a une capacité de 2500 véhicules électriques par année.
Ça, c'est un mix.
Ouais, c'est beaucoup. C'est un mix de camions électriques, puis c'est un mix d'autobus électriques. Puis toute notre chaîne d'approvisionnement a été faite en fonction également d'arriver aux 2500 par année le plus rapidement possible. Donc, tu es toujours aussi bon que ta chaîne d'approvisionnement, ben toute la chaîne d'approvisionnement est là. L'autre chose, là, c'est que ça n'a pas été une décision, nous autres, qu'on a pris dans les derniers mois de s'en aller dans le camion électrique. On a pris cette décision-là il y a environ 5 ans. Et les flottes de camions venaient nous voir, puis ils disaient, écoute, étant donné que tu as déjà un autobus scolaire électrique, un autobus scolaire, c'est bâti sur un châssis de classe 7. Puis là, ils disaient, écoute, enlève le fourgon et mets-nous un camion là-dessus. Puis on disait, non, c'est pas aussi simple que ça. nous, quand on fait quelque chose, on aime bien le faire. Donc, ça nous a pris 5 ans. Arriver avec la cabine de camion, qui est complètement une cabine Lion. Là, on ne dépend pas de personne d'autre.
Okay.
C'est sur un châssis Lion, 100% Lion. Donc, c'est toutes des choses Lion. Puis ça, c'est important parce qu'on se garde à ce moment-là toute la flexibilité là au niveau de notre de production, puis pour être sûr qu'on répond aux besoins du client. Donc, les discussions avec ces clients-là ont commencé il y a beaucoup d'années. On a fait des groupes focus. Et là, on est arrivé au marché dans la dernière année, puis on commence à livrer nos premiers véhicules en ce moment. Donc, non, il n'y a pas besoin de retourner à la planche à dessin. La beauté de notre affaire, c'est que les camions se vendent présentement.
Il y a présentement, bon, des autobus qui circulent sur la route. Les camions s'en viennent très bientôt. Est-ce que chez Lion, on a l'idée d'étendre la gamme encore plus et de proposer peut-être, je sais pas, des voitures pour le consommateur moyen?
Non, c'est ça. Nous autres, notre fenêtre est vraiment dans le poids lourd. Et dans le poids lourd, là, il y a peu de manufacturiers qui se sont intéressés à l'électrique, par le passé. Puis là, ils commencent à s'intéresser à ça. Et nous, il y a 10 ans, on a vu l'opportunité de briser la glace là, à tous les niveaux. C'est pour ça qu'on a été les premiers au niveau de l'autobus scolaire électrique. Puis aujourd'hui, on est devenus les leaders. Donc, on a devancé les autres manufacturiers au niveau de l'autobus scolaire. On est vraiment le leader. Peu de monde aurait pu dire ça il y a 5 ans, hein, qu'on serait devenus les leaders, mais c'était notre objectif de le devenir. Et on a l'objectif de faire la même chose dans le camion, étant donné qu'on est à peu près les premiers dans le camion. Là, il y a très peu d'autres compagnies qui sont là-dedans. Mais on a un produit, nous autres, qui a déjà au-dessus de 10 millions de kilomètres sur la route, avec tout ce qu'on a fait au niveau de l'autobus scolaire. Et puis, c'est le même genre de technologie qui est amenée dans le camion. Donc, c'est vraiment notre champ. Dans les camions, on est dans le classe 5, 6, 7, 8. Dans l'autobus scolaire, on a différents types d'autobus également. Là, pas juste dans le scolaire, mais dans l'autobus. Et non, dans le véhicule plus léger, comme les voitures, bien, vous avez déjà Tesla, vous avez Ford, vous avez GM. Et ça se remplit vite. C'est des géants qui sont là-dedans, qui s'intéressent à ça depuis des années. Donc, on va laisser ça aux autres.
Évidemment, vous l'avez dit, l'automobile, ça commence à être ancré dans les mœurs des automobilistes que de penser à acheter une voiture électrique ou hybride ou hybride rechargeable. On en parle depuis assez longtemps. Ça a évolué très vite parce que quand on y pense, il y a 10 ans à peine, la voiture électrique ne faisait qu'arriver chez nous, le Nissan Leaf, Mitsubishi et Miev, et c'était à peu près tout. Et maintenant, on sait ce que ça a donné. Donc, les gens y pensent. Mais dans le poids lourd, on a l'impression que on est encore à l'étape du dinosaure où on ne veut pas penser à un véhicule électrique, où on aime les mécaniques traditionnelles, où on veut contourner les règles anti-pollution. On le sait que c'est un fléau, d'ailleurs, sur les camions routiers de contourner les systèmes de liquide d'urée et tout ça. Est-ce que vous n'avez pas un travail colossal pour tenter de séduire les entreprises qui ont besoin de renouveler leur flotte de véhicules pour les convaincre de passer à l'électrique?
Oui, ben tout à fait, vous avez raison, mais la bonne nouvelle pour eux autres, là, c'est que c'est bon au niveau de l'environnement, mais la majorité des gens ne le font pas nécessairement pour ça. C'est parce que le coût de propriété du véhicule est moins cher que le diesel. Donc, il coûte plus cher au départ, mais il y a tellement d'économies par la suite que le coût de propriété, là, on a les calculs de tout ça. Exemple, pour un camion de collecte de déchets, ben le retour sans aucune subvention là se fait à peu près dans une période de 6 ans. Donc, les gens, souvent, au départ, le faisaient au niveau environnemental. Et ce qu'on leur dit, nous autres, au départ, ça, c'est parfait. Mais
ça paraît bien pour l'entreprise, ça, c'est sûr, oui.
Ben oui, absolument. Fait que ça, c'est bon. Là, la mission environnementale est parfaite. Mais regarde maintenant le coût de propriété de tout ça. Puis quand nous, on rencontre les clients, ils sont souvent... Au début, ils nous disent toujours, on pensait que vous alliez nous parler de l'environnement là, longtemps. La conversation a duré 30 secondes sur l'environnement. Maintenant, tout le monde sait que c'est vraiment bénéfique pour l'environnement. La conversation est au niveau business, est au niveau économique, avec leurs hypothèses à eux, là, les hypothèses des opérateurs de flotte, pour dire, est-ce que c'est rentable pour toi de le faire? Puis dans la grande majorité des cas, c'est rentable pour eux autres de passer à l'électrique. Fait que ça simplifie pas mal la discussion, ça.
L'automobile à hydrogène, on commence à mettre une croix tranquillement là-dessus, mais beaucoup de spécialistes vont dire que l'hydrogène, on pourrait voir ça un peu plus dans le transport lourd, justement, donc un secteur qui vous touche. Est-ce que c'est quelque chose qu'on envisage ou quelque chose qu'on examine chez Lyon?
Nous autres, chez Lyon, on n'envisage pas l'hydrogène. On l'a beaucoup étudié. Puis l'avantage de l'hydrogène aujourd'hui, c'est de faire du longue distance. Fait que dans le fond, nous autres, on dit souvent là que c'est des autobus urbains, des autobus scolaires urbains, puis des camions urbains. Et la raison du urbain, c'est qu'aujourd'hui, le maximum d'autonomie, là, exemple sur nos camions, c'est 400 km. Donc, quand les clients nous appellent, veulent faire du 600 ou 700 km, aujourd'hui, on n'a pas le produit pour ça. Par contre, le marché du camion urbain puis de l'autobus urbain est tellement grand. Écoute, on parle de plus d'une centaine de milliards par année. Okay? Donc, c'est un marché qui est absolument énorme. Nous, on a décidé de ne pas se lancer dans l'hydrogène. On pense que ça serait une défocalisation pour nous autres d'aller là-dedans. Et puis, l'autre chose qui est importante aussi, c'est que la densité des batteries augmente à chaque année. Ouais. Donc, aujourd'hui, on fait du 400 km. Mais on pense que vers la fin de 2021, on va faire peut-être du 430-440 km. Et par la fin de 2022, on va être proche du 500. Donc, quand on regarde là au fil des 5-6 prochaines années, on va être rendu à 650-700 km. Et quand on est rendu à 650-700 km sur un véhicule 100% électrique, pourquoi passer autant de temps essayer d'y aller avec une énergie comme l'hydrogène qui est seulement transitoire. Donc, ça donne rien de mettre du temps là-dessus. Nous autres, on se focus sur l'urbain, puis on va arriver avec le camion de longue portée au fil, peut-être à peu près des 4-5 prochaines années, mais c'est sûr qu'à l'intérieur des 10 prochaines années, on va être capable de faire 800-900 km sur une seule recharge, c'est certain.
On connaît tous Elon Musk comme étant là un entrepreneur flamboyant, un entrepreneur en série. Vous qui êtes un entrepreneur québécois relativement peu connu du grand public, votre parcours ressemble à quoi? Comment vous êtes arrivé dans l'univers du transport lourd électrique?
Ben en fait ça a commencé par une passion parce que au début moi je vous dirais qu'on a voulu faire ça vraiment pour les enfants. Donc, c'était vraiment au niveau du transport scolaire, c'était vraiment pour les enfants. Même si on a annoncé maintenant que la compagnie s'en va publique, ça n'a jamais été vraiment dans mes objectifs au départ. C'est que là, on juge que c'est la bonne façon d'y arriver pour lever les capitaux. Fait que non, tout ce qu'on fait, nous autres, c'est qu'on a toujours fait les bonnes choses pour le produit, puis pour, évidemment, le produit que le client a besoin. Donc, moi, ça a toujours été plus important pour moi que ça soit le produit qui soit de l'avant, c'est les clients qui sont de l'avant. Donc, c'est pas l'entrepreneur en arrière du produit qui est important. C'est vraiment le produit, c'est vraiment le client, pour être sûr qu'eux autres ont le bon produit pour le futur.
En terminant, j'imagine que un conducteur d'autobus scolaire qui passe à un autobus électrique, il doit avoir un certain plaisir à conduire un autobus électrique versus un véhicule diesel.
Ça doit être différent, c'est sûr.
Où évidemment, il y a plus de vibrations et il y a une senteur relative au diesel qui
un
entoure
bruit aussi,
le véhicule.
Ouais, c'est ça.
Ça doit être intéressant, ça doit être agréable à conduire comme véhicule.
Ben c'est sûr, puis c'est un petit peu comme dans le domaine de la voiture, tu sais, il y a très peu de gens qui achètent une voiture électrique, puis qui après ça vont retourner à une voiture à essence. Hein? La majorité des gens, là, un coup qui ont conduit l'électrique, vont rester dans l'électrique. Puis c'est la même chose au niveau des véhicules.
Moi, j'en connais un, il avait acheté une Focus électrique, puis il est revenu à une voiture régulière, mais il avait acheté la mauvaise voiture électrique.
C'était peut-être pas la meilleure voiture pour avoir la piqûre de l'électrique,
non,
disons ça comme ça.
Mais, non, exactement, mais là, ça a beaucoup évolué, puis la majorité des gens vont vouloir rester là-dedans. Puis l'autre chose qui est drôle dans l'autobus scolaire, c'est que les enfants sont plus zen. Fait qu'ils arrivent à l'école, ils sont plus parce que, justement, il n'y a pas toutes ces contraintes-là à côté. Il n'y a pas les vibrations, il n'y a pas ces odeurs-là. Puis ça, là, ce que je vous dis là, ça vient pas de moi, ça vient des conducteurs qui, eux, disent, écoute, c'est fou, nous autres, on voudrait conduire l'électrique, là, c'est plus zen. Fait que c'est la même chose qui arrive au niveau là, des opérateurs de camions. Là,
êtes-vous en train de me dire que, grâce à vous, il va se vendre moins de Bifantin au Québec?
On le souhaite.
Ouais, c'est ça. Bon, ben, ça fait un plaisir de vous parler, M. Bédard. Alors, bonne chance à votre entreprise et vivement un nombre grandissant d'autobus scolaires et de camions lourds 100% électriques sur nos routes.
On va suivre ça de près. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci, au revoir.
Antoine Joubert. Germain Goyer. Des vrais gars de char. Le guide de l'auto.
Antoine, juste avant les fêtes, t'as conduit la Tesla Model S.
Ouais.
Et tu l'as expérimenté, comme on pourrait dire, jusqu'au bout.
Jusqu'au bout, ouais. Alors, ça a été drôle parce que la Tesla Model S, c'est actuellement la voiture électrique qui offre la plus grande autonomie, toutes catégories confondues, à 647 km. Et lorsqu'on m'a livré la voiture, elle n'était pas pleinement chargée, mais il y avait tellement d'autonomie qu'on ne s'est pas cassé la tête. Moi, j'ai fait mes tests avec la voiture, on en a même tourné une vidéo avec le collègue Gabriel Gélina. Et ensuite, ben, je suis retourné à la maison en me disant, je vais recharger la voiture à la maison parce que j'ai ma borne de recharge Heavy Duty qui est chez moi. Et c'est rendu dans le garage à la maison que j'ai réalisé que je me suis souvenu en fait qu'une Tesla, on ne recharge pas ça comme n'importe quelle autre voiture électrique. Ça prend un adaptateur pour se brancher sur un réseau ou sur une borne autre qu'une borne Tesla. Et malheureusement, on ne me l'avait pas fourni. Il n'était pas dans la voiture, donc je ne pouvais pas me recharger à domicile, à moins de me brancher sur le 110 puis de gagner 4 km.
C'est ça, il dit passer l'année.
C'est ça. Alors, c'est ce que j'ai fait. Je me suis branché sur le 110. J'avais 80 km d'autonomie restant quand je suis arrivé à la maison. 120 au petit matin le lendemain quand je me suis levé, que je suis parti avec la voiture. Et je me suis dit, bon, ben, je demeure sur la rive nord. Je devais me rendre à Mont-Saint-Bruno. Je vais être capable de me rendre à Mont-Saint-Bruno. Ensuite, de passer par le quartier 1030 où sont les bornes de Supercharger chez Tesla pour recharger la voiture. Pour ça, je vais être correct. Mais ce que j'avais pas prévu, c'est que le 120 km qu'on m'affichait...
Il était un petit peu optimiste.
Ben, il a baissé drastiquement, considérant la température extérieure, si bien que quand je suis arrivé à Mont-Saint-Bruno, il me restait 12-13 km à faire, ou quelque chose comme ça, ou 20 km, je pense. Bref, juste un peu plus que la distance nécessaire pour me rendre au quartier 1030, où sont les bornes Supercharger. Et là, en redémarrant, en repartant avec la voiture pour aller dans le 1030, la voiture m'a dit qu'il fallait que je roule moins de 80 km/h, sans quoi je manquerais d'autonomie pour me rendre à destination. Mais là, j'ai l'autoroute à prendre. Donc, je peux pas rouler 80 sur l'autoroute.
Si tu avais eu une Corolla beige, tu aurais pu.
Oui, c'est ça. Je roulais 90, 92. Je faisais attention. Ça fait et rendu, disons, vis-à-vis l'autoroute 10, où il me restait 2 km à parcourir, on m'affichait 1 km d'autonomie.
Juste à t'entendre, je suis très nerveux.
Bon, c'est ça. Et là, c'est là que je me suis souvenu du sentiment d'anxiomobilité qu'on pouvait avoir ou du syndrome de la pile morte lorsqu'on a essayé les premières voitures électriques puis qu'il n'y en avait pas de réseau de borne de recharge puis qu'on était foutu si on
et que l'autonomie était beaucoup moins grande
ben,
aussi.
C'est ça,
là.
Quand on essayait des Nissan Leaf puis des Miev à 120 km d'autonomie dans de belles conditions, on n'était pas là. Mais là, je retournais au point de départ parce que j'avais été pris dans un contexte où, merde, j'étais pas capable de me recharger. Donc, à 600 mètres de la destination, la voiture m'indique 0 km d'autonomie et me dit que je ne me rendrai pas à destination et qu'il me faut me recharger avant. Mais ce qui est impossible, évidemment. Donc, je joue le tout pour le tout et je décide quand même de pousser la voiture tranquillement en conduisant avec un œuf sous la pédale là, et de me rendre aux bornes de recharge. Et j'ai réussi. J'ai réussi à me rendre aux bornes Tesla. Je me suis stationné.
Attends, ce sera pas long. Je veux juste essuyer la goutte de sueur dans mon front.
et je me suis stationné. La voiture m'indiquait 0 km d'autonomie. Wow. Il y a un graphique où tu peux voir la batterie et l'autonomie restante en pourcentage avec un dessin qui est vert, là, plus rien. Alors, c'était complètement vide. Alors, j'ai pris des photos de ça, j'ai branché la voiture. C'était 1h10 pour recharger la voiture sur une borne.
Ça, c'est la bonne nouvelle, là.
C'est 1h10 et t'as 647 km d'autonomie, là, vraiment, selon Tesla, là. C'est pas ce qu'on m'affichait une fois que la voiture était totalement chargée parce que, bon, le contexte de conduite avait fait que l'autonomie était moindre. Mais... je peux te dire que j'aurais poussé une Tesla, en fait, la voiture ayant la plus grande autonomie à sa limite. Je suis vraiment curieux de savoir combien de centaines de mètres ou de kilomètres j'aurais pu faire alors qu'on m'indiquait 0 km d'autonomie. Puis ça m'a rappelé un type qui était tombé en panne pas loin de chez moi avec un nouveau Audi e-tron qu'il venait de se procurer et le gars apprenait à gérer justement cette autonomie-là qui est nouvelle pour les gens qui se procurent un véhicule électrique pour la première fois. Et ben, il manquait 3 km pour se rendre chez lui. Il a dû appeler la dépanneuse.
Ben, c'était ma question. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, évidemment, c'est pas souhaitable, mais c'est pas souhaitable au même titre qu'on veut pas qu'un véhicule à essence manque d'essence. Qu'est-ce qu'on fait? On appelle un service de dépannage.
Ben
puis,
ouais, t'as pas le choix.
C'est la seule
option.
Et moi,
j'ai un ami remorqueur qui m'a dit que ça arrivait de façon régulière qu'il devait remorquer des voitures électriques parce que les autos avaient manqué d'autonomie. Puis c'est souvent des gens qui viennent de s'acheter une voiture électrique et qui ont...
Ils sont encore en train d'apprivoiser leur véhicule.
C'est ça, exactement. Qui doivent changer leurs mœurs quant à faire le
plein. Ah, mais c'était écrit 400 km là, dans la brochure.
C'est ça. Puis à 218, l'auto tombe en panne. Quand il fait moins 25, ben c'est
voilà.
Une réalité avec laquelle il faut que tu composes et que j'ai composé avec la Tesla. Voilà.
Merci Antoine. À la semaine prochaine.
Exactement.